Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
Apporter notre louange au Seigneur. Il est digne.
Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms,
tu es le seul.
Jésus, tu es le seul, m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Toi, je vis pour toi.
Ensemble très saint.
Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi. Révèle ton amour et rends-moi. Jésus, tu es le seul offrant le pardon.
Digne de chaque souffle,
digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi,
je vis pour toi. Très saint,
très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es.
Il est le rocher solide, on va encore choisir de bâtir notre vie sur lui.
Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble.
On peut faire cette confession.
Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton seul. Non, je ne tremblerai.
Très saint,
très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que je
l'attends.
Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable.
Semblable
à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta
on veut vous écouter, Église.
Beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce
encore
que
une dernière fois, très saint,
très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable.
Apporte ton adoration ce matin.
Ouvre mes yeux.
On a besoin d'une révélation.
Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es.
Tu es le rocher des siècles. Seigneur, tu ne changes pas, tu es celui qui est. C'est-à-dire que tu étais dans le passé, tu es aujourd'hui dans le présent et tu seras toujours à l'avenir. Seigneur, tu es celui qui est triomphant, qui est victorieux. Seigneur, on est peu de choses devant toi, mais ce qu'on en veut te l'apporter. Toute la louange est pour toi. Seigneur, merci parce que tu nous as acceptés près de toi. Et à chaque jour, tu nous portes. Tu nous donnes ta providence, tu réponds à nos besoins. Seigneur, qu'on puisse le réaliser. Seigneur, on a tout en toi et tout don parfait vient de toi. Alléluia. On veut remercier le Seigneur, être avec un cœur plein de gratitude pour tout ce que nous n'avons pas. Pas pour ce qui semble nous manquer, mais pour ce que nous avons en lui, notre salut, la vie éternelle. marcher à ta suite. Seigneur,
tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi
dans l'abondance de ta grâce.
Dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves.
Le Seigneur peut te relever.
Tu me relèves.
Amour divin.
Mes chers frères et sœurs, voudrais vous transmettre ce qui me semble être, je ne sais pas si ça a proprement parlé une pensée prophétique, mais probablement, mais un encouragement de Jésus lui-même. Et je veux dire à ceux qui viennent peut-être pour la première fois ou qui nous découvrent sur Internet, qu'en fait, nous sommes une église, comme d'autres d'ailleurs dans le monde, qui croyons que Dieu parle toujours, toujours, même de nos jours, par sa parole ou par à travers ceux qui le connaissent déjà. Et voici cet encouragement qui me semble recevoir du Seigneur que je vous soumets. Ah, ma chère église, je veux te dire combien je t'aime. Je veux te dire courage. Je sais parfois que certains d'entre vous sont abattus, découragés. Bien sûr, cela est naturel. Cela est naturel. Et parfois, vous pouvez connaître des découragements, des abattements supplémentaires, entre guillemets, qui viennent du fait que vous êtes mes enfants, les enfants du Seigneur. Mais sachez une chose, c'est que j'ai déjà vaincu pour vous. Et je veux vous le rappeler, parce que c'est vrai aujourd'hui, comme c'était hier, c'est vrai aujourd'hui comme ce le sera demain. N'oubliez pas une chose, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Et ce jour-là sera un jour tellement glorieux, victorieux, extraordinaire, que vous verrez, vous comprendrez toutes choses à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, vous serez saisis, transformés. Je ne vous dis pas quand je reviens, aujourd'hui, demain, après-demain, car le sujet n'est pas là. Le sujet est dans l'attente de votre cœur. Sachez que je suis présent parmi vous, là, maintenant. Je suis au milieu de vous. Mon esprit est là. Je suis présent et je suis présent dans chacun d'entre vous. J'entends les cœurs, je vois les désirs, je vois les aspirations. Je suis là auprès de vous, au milieu de vous, je suis là. Tenez bon, courage, et puis n'ayez crainte, la victoire vous appartient, pas toujours à la manière dont vous y pensez, pas toujours de la manière dont on peut la concevoir, pas toujours immédiatement, et parfois pour plus tard. Tenez bon. Croyez en Jésus, croyez en moi, dit Jésus. Je suis au milieu de vous, je suis là, parmi vous. Allons-y ensemble, mes chers frères et sœurs.
Amen. On ne va pas rester comme ça après ce qu'on vient d'entendre, mais j'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant « Tu es ma force ». Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ce matin. Et effectivement, Dieu nous encourage à dire « Je reviens là ». Vous n'êtes pas tout seul. Mais peut-être ce matin, ce n'est pas ton cœur de dire « Tu es ma force », mais vous savez, il y a une force qui se dégage lorsqu'on déclare les vérités à propos de Dieu. Et je veux vous encourager ce matin, est-ce qu'on peut se lever dans cette salle et puis reprendre « Tu es ma force » comme une prière ce matin ? Peut-être tu es découragé, peut-être c'est lourd ce matin. Je t'invite à déclarer ce que Dieu est. Il est notre force. Le Saint-Esprit vit en nous, il est à nos côtés et il a moyen de nous donner les forces encore pour traverser les différentes situations qu'on peut vivre, que ce soit les moments de joie où on peut se réjouir avec Dieu, mais aussi des moments un peu plus difficiles. Mais vraiment, je veux vous encourager ce matin à élever la voix. Et est-ce qu'on peut élever la voix dans cette salle et puis on va reprendre tranquillement après, tu es ma force. Mais est-ce qu'on peut déclarer que Jésus est notre force dans ce lieu ce matin? Alléluia, Père. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. On peut te faire confiance. Merci parce que tu nous communiques force, puissance encore par la vie de ton esprit. C'est pas un Dieu resté sur la croix que nous adorons ce matin, mais le Dieu vivant et ressuscité qui a décidé de s'investir dans chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut élever la voix ce matin, Église, et proclamer qu'il est notre force dans ce lieu? Alléluia, Jésus. Tu es ma force. Alléluia Jésus. On le déclare comme une prière. Tu es ma force.
Tu es ma
Tu es l'espoir.
puissance de ton nom, tu me relèves.
Dis-le à ton âme, et celui qui nous relève ce matin.
Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me
le piano continue, on va lire juste ce psaume 42, le verset 6 qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin dans ce lieu ? Il est notre salut, notre Dieu, notre soutien au quotidien. Éternel, je veux te prier pour quelqu'un qui est abattu ce matin, qui est lourd, qui est venu lourd et chargé, Père. Tu es celui qui donne du repos encore pour nos âmes, encore aujourd'hui. Ta main n'est pas trop courte pour agir, Père. Et je te prie, Seigneur, de toucher cette personne là où elle est, dans le secret de la rencontre de son cœur, Jésus. Tu es celui qui veut te tenir à ses côtés encore ce matin dans ce lieu. Alors qu'on va continuer de le louer, je te prie pour que cette personne puisse expérimenter ce joug lourd qui parte et qu'elle puisse expérimenter ce joug léger que tu communiques, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui te suivent. Alors ma prière, c'est que tu sois le Dieu du salut pour cette personne ce matin, dans la situation où elle est, au nom puissant de Jésus. Amen.
Reçois de moi le parfum qui t'a dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.
Est-ce qu'on peut chanter « Rien n'est plus beau que ton nom » ?
Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix
toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi.
Emmanuel, c'est un joli prénom, ça veut dire Dieu avec nous. Mes amis, Dieu veut être avec nous. Amen. Alors si ce n'est pas encore ta réalité, c'est possible de faire cette démarche. Et puis tu seras encouragé tout à l'heure dans la suite de cette célébration à pouvoir faire cette démarche pour découvrir Emmanuel, Dieu avec toi. Amen. Quelques annonces juste avant de laisser la place à Mathieu ce matin. Déjà, vous rappelez à tous celles et ceux qui sont là pour une première fois, si vous avez envie d'échanger avec un pasteur, si vous avez des questions concernant la vie d'église, n'hésitez pas à l'issue de cette célébration à aller au point accueil. Il y a toute une équipe qui est là pour vous accueillir, pour pouvoir vous orienter, vous apporter déjà des éléments de réponse pour pouvoir poursuivre ce cheminement que vous voulez entreprendre. Une autre nouvelle, c'est très calme en ce moment, c'est le mois d'août, l'activité de l'église est ralentie, mais juste pour vous rappeler qu'à partir du dimanche 15 septembre, c'est la reprise de toutes les activités des 0-25, qu'on soit des enfants, des pré-ados, des ados, toutes les activités redémarrent le dimanche 15 septembre, ça c'est pour les parents, mais j'espère que les enfants qui sont dans cette salle sont déjà pressés d'aller vivre cette année, on croit qu'il va être belle avec Jésus, parce que Jésus se tient au milieu de son peuple. Amen. Amen. Je vais laisser maintenant la place à Mathieu, puis on va prier pour cet instant. Je vais encore vous demander de vous lever si possible, si vous avez l'énergie encore pour, mais on veut vraiment remettre aussi ce que Dieu a mis sur le cœur de Mathieu afin qu'il puisse le communiquer et le transmettre de la manière la plus claire possible. Et vraiment, Seigneur, on te demande ce matin une mesure de grâce particulière. Seigneur, on ne veut pas s'habituer à venir dimanche après dimanche pour écouter un message, un sermon, Seigneur, sans que ça fasse d'effet dans nos vies. Notre prière, Seigneur, c'est que ta parole soit notre nourriture, qu'elle façonne notre façon de penser et qu'elle permette à ce qu'on pose des actions concrètes au quotidien. Alors je te prie pour ce qui va être communiqué ce matin, vraiment, je te prie pour Mathieu. Merci encore de le revêtir de toi, Seigneur, de lui donner toute, Seigneur, la force nécessaire pour communiquer ton message et que tu puisses, Seigneur, trouver des cœurs ouverts. On veut se disposer ce matin à recevoir de toi parce que nous sommes conscients que sans toi, sans ta parole, nous sommes perdus, Seigneur. Mais dans ta grâce, tu as décidé de communiquer, de transmettre avec nous parce que tu nous veux voir grandir avec toi. Et c'est notre cœur ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons grandir avec toi et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen.
Amen. Gute Moria Bisoma. Ça fait plaisir de revenir à la maison. En Alsace, après quelques jours de repos en famille, Donc voilà, je vous salue de la part de toute la Provence, du Sud. Oui, je suis le porte-parole du Sud ce matin pour vous dire qu'ils ont reconnu là-bas que l'Alsace est la plus belle région du monde. Hein ? D'accord ? Donc si vous nous suivez en ligne du Sud, merci de reconnaître que les Alsaciens, leur gastronomie, tous les paysages, notre culture, voilà, que c'est vraiment la plus belle de France. En tout cas, soyez toutes et tous bénis. On voudrait souhaiter la bienvenue déjà à l'église, c'est sûr, à chacune et chacun d'entre vous, les familles, la famille de l'Épi aussi. L'église connectée, ce matin, vous êtes peut-être connectés ici et là, en congé, au travail ou autre, soyez les bienvenus. Et vous qui nous visitez pour là ou les premières fois, laissez-moi vous dire ceci, vous êtes nos invités d'honneur. Est-ce qu'on peut y se reconnaître ? On se peut les applaudir. On va pas vous mettre mal à l'aise. Vous vous reconnaîtrez si vous nous visitez ce matin. Pendant mes congés, j'ai pu suivre une célébration en ligne et je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille, même en été. C'est pas toujours très simple hein, de pouvoir maintenir une cadence comme ça. Et puis avec les aléas parfois de l'internet en France, on nous avait promis la 5G partout. Visiblement, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe parce que ça nous permet de rester connectés à l'église de l'Épi. Et j'ai pu suivre une célébration qui a succédé à la cérémonie des Jeux Olympiques. Et je voudrais remercier Raymond Pierre, l'équipe pastorale, qui avant de partager avec vous ce que nous avons pu saisir de la fameuse cérémonie, il l'avait partagé en équipe pastorale et nous avons partagé ici une position qui était claire, qui était précise, qui invite chacune et chacun à être dépassionné, mais en même temps centré sur l'Évangile, centré sur Jésus. Et je voudrais vraiment remercier Raymond Pierre pour cela. Et si vous voulez retrouver tout cela, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube, sur la série « Les prières de Jésus ». Le message de Raymond Pierre s'intitule « Une puissance pour résister, ne me remercie pas RP, ça te fera plusieurs vues, la célébrité, la gloire, tout ce que tu aimes, tout ça. » Les prières de Jésus, c'est la série dans laquelle nous sommes cet été. Et je voudrais vous parler de la prière qui ramène à la vie. La prière qui te ramène toi, qui me ramène moi à la vie. En cette période d'été, entre frénésie, entre accalmie, les prières de Jésus ont cette vertu de nous ramener à ce que j'appelle l'essentiel. À chaque fois que vous méditez, vous étudiez les prières de Jésus, elles ont cette capacité, cette force à vous rassurer, à vous calmer, à vous fonder. Par exemple, en priant de suite après son baptême, Jésus nous montre l'importance de continuer de prier après le baptême. Qui croit que c'est important de continuer à prier après être baptisé ? Levez la main. En priant avant de choisir ses apôtres, en priant avant de choisir ses compagnons de vie pendant 3 ans, Jésus nous rappelle l'importance de prier quand nous devons faire des choix cruciaux dans notre vie. On compte comme cela environ 10 prières formulées clairement par Jésus dans les évangiles, dont celle que j'aimerais méditer avec vous ce matin. Et j'espère que cette prière méditée avec vous nous permettra de découvrir ou de redécouvrir que Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des miracles, oui. Découvrir aussi que avec cette prière, Jésus nous révèle qu'il y a plus pour vous, qu'il y a plus pour moi, au-delà du miracle que tu attends. Il y a plus. Cette prière, on la trouve dans le récit de Lazare et de ses frères et sœurs, qui sont frères et sœurs avec, qui est frère, je vais y arriver, Lazare, qui est frère de Marthe et de Marie dans Jean, chapitre 11. Nous nous trouvons à Béthanie, c'est en Judée. C'est environ à 3 kilomètres au sud-est de Jérusalem. C'est pas trop trop loin. Et à Béthanie se trouve cette fameuse fratrie dont je viens de vous parler. Lazare, Marthe et Marie. Il se trouve malheureusement que Lazare va tomber gravement malade. Voilà, maintenant, Lazare, Marie et Marthe sont des amis proches. Sont, vous savez, les bros, les vraiment les proches, des personnes vraiment aimées de Jésus. Lazare est malade et les sœurs vont faire parvenir un message à Jésus pour l'avertir que Lazare, celui que tu aimes, est malade. Dans le récit, Jésus nous montrera qu'il aime profondément Lazare. Il aime profondément Marthe et Marie. Il les aime de fou et pourtant il décide encore de rester 2 jours de plus là où il est avant de se rendre en Béthanie, en Judée. À un moment donné, au bout de ces 2 jours, Jésus dit « Allons en Judée ». Et là, il y a un premier problème. Les disciples commencent à s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que la Judée, beaucoup de personnes, beaucoup de ses habitants n'aiment pas Jésus. Il a beaucoup d'opposants, beaucoup d'ennemis. Des gens qui critiquent son message, qui veulent même atteindre à sa vie. Des personnes qui sont prêts même à vouloir le tuer. Il y a vraiment une violence en Judée pour Jésus. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le détestent. Et ses disciples ont peur, disent, mais comment tu veux retourner en Judée? Il y a des gens qui veulent te faire mourir là-bas. Et Jésus dit, on va descendre en Judée et on va voir Lazare. Entre-temps, Lazare, lui, décède de sa grave maladie. Ils vont se mettre en route pour environ 9-10 heures de trajet. Que Dieu bénisse la CTS qui nous permet de voyager bien à Strasbourg. Et tous ceux, celles et ceux qui travaillent à CTS, on vous bénit si elle est épi, n'est-ce pas? Ok. 9-10 heures de trajet. À leur arrivée, Jésus va découvrir que Lazare a été mis au tombeau pendant déjà 4 jours. Beaucoup de gens étaient venus, comme c'est pas loin de Jérusalem, beaucoup de gens étaient venus pour l'occasion donner leurs condoléances à Marthe et Marie par rapport à la mort de Lazare. Et vous allez voir que, comme à plusieurs reprises dans la Bible, Jésus nous révèle que l'épreuve et la souffrance sont parfois des occasions puissantes de vivre un renouveau spirituel avec Dieu. C'est pas simple à vivre quand on est des êtres humains, mais l'épreuve et la souffrance ont cette vertu puissante de nous permettre à certains moments de vivre un renouveau fort, profond avec Dieu. Marthe va apprendre que Jésus approche du village et elle va aller à sa rencontre, tandis que Marie, elle, reste à la maison. Marthe arrive et elle va lui déverser son cœur. Elle va lui déverser sa souffrance. Un peu comme le message de Jérôme qui nous rappelait qu'il est important de pouvoir se déverser devant Dieu quand on souffre, quand même on est en colère, de pouvoir ouvrir son âme, son cœur et de dire « je souffre, je n'en peux plus, c'est injuste, il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas, je suis perdu, je suis paumé ». Et c'est ce que Marthe est en train de faire. Elle est en train de lui dire toute sa souffrance. Et Jésus va l'accueillir en lui disant « ne t'inquiète pas, Lazare va revenir à la vie. » Marthe, à ce moment-là, elle comprend cette phrase de Jésus comme plusieurs juifs de l'époque le comprenaient. C'est-à-dire, oui, il va revenir à la vie une fois qu'il y aura la résurrection finale, mais en attendant, je vais être dans la galère du deuil. C'était une croyance qui était très partagée par les juifs qu'il y aurait une résurrection à la fin. Mais Jésus va encore être plus clair avec Marthe. Il va lui dire très clairement qu'il est non seulement la résurrection, c'est-à-dire qu'il est celui qui ramène un mort à la vie, qui opère le surnaturel dans le naturel, mais il est aussi la vie, c'est-à-dire le mot Zoé. Je fais un gros big up à une petite fille qui s'appelle Zoé, tu as un joli prénom, ça veut dire vie éternelle, prends ça pour toi et vis une vie, belle vie éternelle avec Jésus. Hein. Je suis la résurrection, j'opère le surnaturel dans le naturel et je suis la vie. Cette vie éternelle, cette vie après la vie. Et Marthe va avoir un déclic. Au début de la conversation, elle l'appelle maître, enseignant. Après cette révélation, elle l'appellera Messie, sauveur qui devait venir dans ce monde, sauver le monde. La réponse de Dieu au problème de l'humanité. Le cadeau de Dieu pour l'humanité. Elle passe de maître à Messie. Marthe, elle est encouragée dans sa foi. Alors elle va appeler sa sœur Marie pour qu'elle puisse elle aussi rencontrer Jésus. Et ça, c'est le cœur d'un chrétien. Il a envie, nous qui sommes encouragés par Jésus, que d'autres soient encouragés par Jésus. Marie va arriver et en voyant Jésus pareil dans sa souffrance, dans son deuil, ce qui est tout à fait normal, elle se jette aux pieds de Jésus et elle répète que « Jésus, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. » Parce que vous savez, Marie, elle a une expérience particulière avec Jésus. Marie a vu la puissance miraculeuse de Jésus se manifester alors qu'elle était oppressée, possédée par des démons. Il y avait vraiment tout un acharnement sur sa vie et Jésus a libéré la vie de Marie. Donc elle sait que Jésus est celui qui opère le surnaturel dans le naturel. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus, en voyant Marie, en voyant Marthe, en voyant toutes les personnes pleurer, est profondément ému et bouleversé lui-même. Et Jésus même va pleurer, la Bible nous le dit. Et en redécouvrant un peu ce texte, je me suis rendu compte que c'était pas le pleur, le « comme ça, c'était pas ça. Le terme grec, ici, Et je trouve que c'est très fort parce que Jésus vit quelque chose d'intérieur extrêmement profond. Lui-même est extrêmement souffrant. Le terme grec ici précise que Jésus pleure de manière silencieuse. On ne voit que ses larmes couler le long de ses joues. Il intériorise. Jésus est touché par cette épreuve. Et Dieu sait que perdre quelqu'un qu'on aime, c'est difficile. C'est douloureux. Jésus pleure de manière silencieuse. Tout le monde est troublé. Même le Seigneur, tout le monde est affecté, même le Seigneur, par le décès de Lazare. L'impact émotionnel est là à son paroxysme, est là dans ce chaos, quand l'humanité de chacune des personnes présentes est acculée au plus haut point, Jésus va mettre en action sa confiance en Dieu le Père et il va prier. En dépit de sa souffrance, Jésus met en action sa confiance en Dieu. Et on en arrive au verset 34 du chapitre 11 de Jean que je veux lire avec vous. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus se mit à pleurer. Donc ces fameuses larmes qui coulent. Alors les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Verset 37, « Quelques-uns faisaient remarquer, il y a toujours des encourageurs autour de toi quand tu passes par la souffrance. Hein » Et si tu n'arrives pas à trouver celui qui te décourage, pose-toi les bonnes questions. Quelques-uns faisaient remarquer, il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher la mort de Lazare ? Une fois de plus, Jésus fut intérieurement bouleversé. Il arriva au tombeau, c'est une grotte dont l'entrée est fermée par une énorme pierre. Verset 39, Jésus dit, enlevez la pierre. Jésus ne fait pas que dire, il commande. Et les verbes dans Jean sont importants. Je n'ai pas le temps de faire toute l'étude, mais vous avez une super série sur notre chaîne YouTube aussi, sur l'évangile de Jean. Allez-y, c'est vraiment top. « Enlevez la pierre, commanda Jésus. » Marthe, la sœur du mort, objecta. « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Cela fait 4 jours qu'il est là. » En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'en plus de la réalité de la décomposition, j'ai découvert que certains juifs croyaient que l'âme restait près du corps pendant les 3 jours qui suivaient la mort dans l'espoir d'y retourner. Il y avait cette latence qui pouvait être là. Et si certains à ce moment-là avaient de telles croyances, ils étaient maintenant eux aussi sans aucun espoir de miracle physique ni de miracle spirituel. Il doit déjà sentir et l'âme, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là. Alors oui, Jésus peut guérir, Jésus peut faire des miracles, mais après 4 jours là, c'est mort. C'est devenu impossible. Verset 40. Jésus répondit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Vous voyez, en dépit de sa souffrance, Jésus non seulement met sa confiance en Dieu en action, mais Jésus prie. Et en priant, vous allez découvrir avec moi que Jésus va mettre le miracle à sa juste place. Jean chapitre 11, verset 41. Jésus, tournant alors son regard vers le ciel, dit « Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parle ainsi à cause de tous ces gens qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. » Ici, il y a 3 pépites de la prière de Jésus qui attirent l'attention. Premièrement, pour Jésus, Dieu est tout-puissant, point. Normalement, il y avait, ils vont dire un grand amen parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour Jésus, Dieu est tout-puissant, point. Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Quelle confiance dans un Dieu qui est tout-puissant. Vous savez, l'enjeu ici ne se situe pas au niveau du débat. Dieu peut-il ressusciter un mort ou pas ? Il n'y a aucune ambiguïté pour Jésus. Il n'y a rien qui est impossible au Père. Tout est possible à Dieu. Dieu ressuscite Lazare. Même pas besoin de le voir encore sortir que Jésus sait qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. De le remercier dans la prière. Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à lui. Point. Et dans un instant, nous allons prier encore ce matin. Parce que nous croyons que ce Dieu tout puissant en temps de Lazare, il est toujours tout puissant aujourd'hui pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Deuxième petite pépite. Contrairement à nous, Jésus, lui, est toujours exaucé. « pour nous les pentecôtistes, il va falloir que ça descende. Donc je vais le redire tout doucement. Contrairement à nous, Jésus, lui, est toujours exaucé. Jésus rappelle à ses disciples et à la foule quelles sont sa position et son autorité. Aucun de nous ne peut affirmer être systématiquement exaucé à 100%. Jésus est le seul à le déclarer et Jésus est le seul à le vivre parfaitement. Jésus est le Dieu de l'impossible. Je ne suis pas le disciple de l'impossible, mais je crois dans le Dieu de l'impossible. Jésus nous appelle alors en disant « Tu m'exauces toujours ». Jésus nous appelle à ne pas avoir peur de rester dans l'humilité face au miraculeux. N'ayons pas peur de rester dans l'humilité face au miraculeux. Ne craignons pas de prier pour la guérison divine. Nous avons cette foi et nous pouvons prier pour le miracle. N'ayons pas peur de cela. Mais n'ayons pas peur non plus si Dieu choisit dans sa souveraineté une autre voie que le miracle attendu. N'ayons pas peur de rester humble et de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce que contrairement à nous, Jésus, lui, est toujours exaucé. Et si nous sommes toujours exaucés, si on nous enseignerait que nous pouvons avoir 100% de réussite, nous n'avons plus besoin de foi et nous n'avons plus besoin de Christ. Et moi, je crois que l'Évangile nous rappelle que nous aurons toujours besoin de la foi et nous aurons toujours besoin du Christ. Troisième pépite. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dernière partie de sa prière nous dit ceci. « Pour moi, je sais bien que tu m'exauces toujours, mais je parle ainsi à cause de tous ces gens qui m'entourent, tous ces gens qui lisent l'évangile de Jean à ce moment-là, pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. » Et là, Jésus rappelle que son objectif en venant sur cette terre n'est pas le miraculeux pour le miraculeux. Il y avait déjà des faiseurs de miracles avant. Jésus savait qu'il y allait encore avoir des faiseurs de miracles après. Le miracle n'est pas là pour nous faire éviter la mort. Au mieux, le miracle est là pour nous faire reculer le temps de la mort. Lazare est revenu à la vie. Mes amis, aujourd'hui, Lazare est mort. Il est mort, comme chacun d'entre nous, à un moment donné. La mission de Jésus est de permettre à ceux qui cherchent Dieu de le trouver. La mission de Jésus est de permettre à ceux qui le cherchent de le trouver. Pas simplement le trouver, mais entrer en communion spirituelle avec Dieu. Et pour trouver Dieu, les amis, chacun est invité à reconnaître le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Christ de Dieu. Et le Christ de Dieu, c'est le Jésus des évangiles. Il n'y en a point d'autre. Jésus dit, il est la résurrection, le Dieu de miracles, et il est la vie, le Dieu qui nous sauve pour l'éternité. Et quand Jean écrit son évangile, il n'a qu'un seul but, nous révéler que tout miracle que Dieu permet a pour but d'interpeller notre conscience, d'être comme un signe pour nous détourner d'une vie de péché, une vie sans Dieu, une vie où le mensonge parfois domine, une vie où la jalousie parfois va dominer, une vie où l'indifférence à Dieu, aux autres, aux étrangers, à ceux qui ne vivent pas dans notre cercle, domine parfois sur notre vie, nous détourner de toutes ces choses pour nous permettre de démarrer une vie spirituelle nouvelle où Dieu devient alors notre père spirituel. Dieu devient notre boussole, Dieu devient notre guide, Dieu devient notre source d'inspiration en matière de vie, de choix de vie, d'éthique, de relation. C'est ça le plan ultime de Dieu. Et quand Jean écrit son évangile, il écrit un certain nombre de miracles qui vont pointer pour dire « Jésus est le sauveur dont tu as besoin dans ton âme ». Vous savez, les miracles, la Bible, qu'elle soit lue, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit étudiée, qu'elle soit mise en podcast ou autre, le témoignage d'un chrétien, toutes ces choses ont pour but d'interpeller, d'inviter pardon, une personne à répondre à cette question. Veux-tu suivre Jésus? Veux-tu livrer toute ta vie entière à Jésus ou pas? C'est le but. C'est un moyen par lequel on arrive à là. Lazare revient à la vie, mais son miracle divise. Verset 43. Après avoir prié, il appelle à pleine voix. Lazare! Ça, c'était pour réveiller ceux qui étaient en train de dormir, là. Lazare! Sors de là et viens! Et voici que le mort apparaît, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage recouvert d'un suaire. Jésus dit à ceux qui sont là, déliez-le de ces bandes et laissez-le marcher. Ce qui est fou, c'est que c'est un des plus grands miracles dans l'évangile. et Lazare va pas avoir une destinée apostolique. On va quasiment plus parler de Lazare. On va même quasiment plus parler du miracle de la résurrection. Mais voici l'enjeu ici, verset 45. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Ah, Seigneur, que ce matin, beaucoup de ceux qui entendent l'évangile, la louange et entendent la voix du Saint-Esprit murmurer, qu'ils puissent croire en toi. C'est pourquoi on est l'épi, pour que plusieurs puissent croire en Jésus, découvrir la vie Zoé, la vie éternelle, la vie de qualité qu'il y a en Jésus. Voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Verset 46. Mais quelques autres s'en allèrent prêcher la bonne nouvelle de la résurrection de Lazare, parce que Jésus avait fait l'unanimité dans leur cœur. Ils étaient devenus les apôtres des temps modernes. Ah non, pardon, excusez-moi. Quelques autres s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus a fait. Le miracle fait d'eux des rapporteurs, des gens négatifs. Des gens qui, vous le verrez dans le récit, si vous le lisez après, vont tout mettre en œuvre pour qu'à un moment donné, Jésus soit tué, Jésus soit assassiné. Lazare revient à la vie, mais son miracle divise. Le miracle ici de la résurrection a effectué son travail d'électrochoc. Le taf est fait d'interpeller, d'emmener ceux qui étaient présents à considérer sérieusement que Jésus est le Messie, le sauveur de l'âme, du corps et de l'esprit. Et c'est pourquoi le chrétien croit encore dans le miracle aujourd'hui. Nous croyons que le miracle est possible encore aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi aussi le chrétien ne met pas toute sa confiance dans le miracle. Parce que le miracle ne reste qu'un signe qui apporte une grande joie, qui fortifie la foi, mais le miracle ne sauve pas. Le miracle ne fera pas de toi un meilleur chrétien. Quand j'étais en train de préparer ce message, je me suis interrogé. Je dis d'ailleurs, on parle peu des miracles qui nous emmènent à assumer nos choix de vie. J'entends très peu de témoignages miraculeux qui, du coup, le fruit de ce miracle, c'est que je vais assumer ma vie, je vais devenir droit, je vais plus tricher, je vais plus mentir. Je vais assumer ma vie. Ce miracle fait que maintenant, j'ai encore plus de galères. Mais gloire à Dieu pour ce miracle, parce que j'aime avoir des galères dans ma vie. On veut pas trop entendre parler de cela, n'est-ce pas? Les miracles qui vont améliorer notre vie ou notre bien-être, oui. Ceux qui nous font vivre les souffrances de Christ, ceux qui nous font vivre du mépris, ceux qui nous font vivre de la honte publique parce qu'on est chrétien, moins. Et en pensant à tout ça, j'ai pensé directement à l'apôtre Paul. C'est un chrétien qui devait se rendre à Rome pour témoigner de sa foi. Sa fin était connue par avance. Il allait mourir dans d'affreuses souffrances, c'était sûr. Même des chrétiens essayent de le décourager d'aller à Rome parce qu'ils savent que ça va être la fin à un moment donné ou à un autre pour lui. Pendant son voyage à Rome, attention, on parle d'un chrétien, pour les plus jeunes, il a 15 millions d'XP là. Vous avez le haut, oui, XP, c'est de l'expérience, c'est dans les jeux vidéo. C'est plus t'as de l'XP, plus t'as d'expérience, plus t'es fort, d'accord? Et donc du coup, là on est face à un chrétien qui a vu la gloire de Dieu se manifester par des résurrections, par des villes entières bouleversées, des églises implantées. Il y a vraiment quelque chose d'intense dans la vie, de réveil de l'apôtre Paul. C'est pas n'importe qui, il est pas en train de démarrer. C'est quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est mature. Et pendant son voyage, il va affronter une tempête. Et ils vont presque tous y laisser la vie. Ils ont eu même... Luc dit, on a cru qu'on allait y passer, qu'on allait mourir. Miracle. C'est vraiment un miracle parce qu'on ne devait pas prendre la mer dans cette période-là. Tout marin qui prenait la mer dans cette période-là, en général, c'était le drame. Et là, miracle. Il s'en sort vivant. Le soir même, ils sont accueillis par les habitants d'une île. Wouhou, on danse autour du feu, on a été sauvés, libérés, alléluia. Satan sous mes pieds, tout ce que vous voulez et tout. Ils sont autour du feu. Et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire, hein, vous les chrétiens? Un serpent sort des bois, s'accroche au bras de Paul et le mord, un serpent venimeux. Et tous les gens de l'île qui connaissaient ce type d'animal-là, il dit, c'est terminé pour lui. Quand on est mordu par ce type de serpent, c'est mort. Tout le monde attend que l'apôtre Paul convulse et meure. Et là, il va y avoir un miracle. Un miracle qui va tellement interpeller que des gens vont se convertir à Jésus sur cette île qui ne croyait pas dans les croyances de Paul. Miracle, il s'en sort encore et encore. Il arrive à Rome. Il va témoigner. et il va être assis à la droite de l'empereur. Et tout le monde va écouter l'évangile dans toute la Rome, et la Rome sera à Jésus-Christ. C'est ça l'histoire ? Non. Il va être, par ces miracles-là, emprisonné, maltraité, moqué, abandonné, et plus tard, décapité. Tous ces miracles, pour ça. Juste pour ça. C'est quoi le sens de tout ça ? C'est quoi le sens du miracle pour le miracle pour nous chrétiens ? Faisons attention à être séduits. Le miracle pour le miracle, ça sert à rien. Ici, c'est pas tant les miracles du serpent, de la tempête ou quoi qui comptent dans l'histoire. Ce qui compte dans l'histoire, c'est que Paul a vu sa vie transformée, rachetée, purifiée, libérée spirituellement par un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et il y aura des centaines de personnes qui, avec ce témoignage, vont entendre parler de Jésus, et ces personnes vont devenir à leur tour des chrétiens. Et ils vont partager l'évangile à d'autres qui vont devenir des chrétiens, qui vont partager l'évangile à d'autres qui vont devenir des chrétiens. Et puis l'Europe va être bouleversée par l'évangile jusqu'à en arriver cette rue des Frères Hébert à la Méno, où il y a des croyants qui croient en Jésus-Christ et qui croient que Jésus est vivant aujourd'hui. C'est ça le plus important. Oh là 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 là. Je viens par ici parce que là, ils m'ont découragé. Le plus important, vous savez ce que c'est ? C'est que Jésus sauve encore aujourd'hui, et depuis des centaines d'années, l'évangile se propage jusqu'en Europe, jusqu'à Strasbourg, jusqu'à rue des Frères Hébert. Amen. Je réessaye avec vous. Du coup, comme l'évangile est arrivé cette rue des Frères Hébert, l'évangile peut encore toucher la ville de Strasbourg, l'Eurométropole, et toutes les personnes qui ont aimé la cérémonie des JO. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le plus important, ce n'est pas le serpent. Le plus important, c'est que l'évangile soit libéré pour que l'Europe puisse entendre parler du nom de Jésus. Le plus important, c'est l'accès au salut éternel. Ça restera toujours la mission prioritaire de Jésus, et ça restera toujours la mission prioritaire des disciples. Donc ça restera toujours la mission prioritaire de l'Église de l'Épi. À la fin de ce message, je réfléchissais et je me suis dit, la maturité spirituelle, elle m'apprend chaque jour qui passe, que ma vie est une offrande sans condition à Dieu, que Dieu permette un miracle ou pas. Ma vie, Dieu m'appelle à offrir une vie en offrande, en sacrifice sans condition pour Dieu, que Dieu permette des miracles ou pas. Je me souviens entrer dans la chambre de mon petit frère. Il lui reste quelques heures à vivre. Il est branché de tous les côtés. Et c'est la myopathie de Duchenne, pour celles et ceux qui connaissent cette maladie génétique. La myopathie de Duchenne va l'emporter. L'espérance de vie pour des gens touchés par la myopathie de Duchenne, c'est 19 ans. Mon petit frère est mort à l'âge de 19 ans. J'arrive dans cette chambre. Pit, tut, tit. Vous savez, mon réflexe premier, c'est quoi ? C'est de m'approcher de lui. Évidemment, je suis touché. Et je dis, Seigneur, j'ai l'impression que son cœur, il bat encore, si tu pouvais juste le relever. Non pas pour que ce soit un truc à d'ailleurs, mais juste pour que je puisse prendre un temps avec lui encore. Et je priais pour sa résurrection de tout mon cœur, de toute ma foi. J'avais déjà prié pareil pour d'autres personnes, j'avais vu déjà Dieu agir dans la vie physiquement de personnes, ça avait été même avéré. Et là, je prie pour lui et malheureusement, il va rien se passer. Les jours qui suivront auront été les plus difficiles pour moi. Non seulement je perdais un petit frère, mais en plus, malheureusement, j'ai découvert un aspect de l'Église que aujourd'hui je n'en veux plus. Ceux qui te découragent quand tu es déjà dans le deuil. Qui te disent que c'est de ta faute si le frère est mort, parce que tu as manqué de foi. Ah, j'ai peut-être manqué de foi, mes amis. Mais ce que je sais, c'est que mon cœur entier croyait que Dieu est capable de relever mon petit frère. Des années plus tard, je suis en stage ici à l'Épi. Je suis dans les derniers mois avant de partir à Auxerre. Quelqu'un qui fréquente l'église, que je connais, parce qu'il est réunionnais, et puis voilà, ça matchait bien. Il m'appelle, il dit, écoute Mathieu, mon neveu vient de faire une rupture d'anévrisme. Il gardait sa petite fille, une petite fille de 3 ans. La maman était partie faire des courses, était à ses activités. Elle est partie pendant plusieurs heures, et quand elle rentre à la maison, elle ouvre la porte, et la petite fille dit, maman, maman, papa dort, papa dort. Finalement, elle appelle les pompiers, c'est le drame, rupture d'anévrisme, et le gars est emmené aux urgences. Il est dans le coma, ça fait, il me semble, 2-3 jours déjà qu'il est dans le coma. Il m'appelle l'épi, Et en général, si vous appelez, on essaiera toujours de répondre à votre appel. Il m'explique. Et du coup, il me dit, j'aimerais que tu pries pour lui parce que je crois que Dieu peut le relever. J'ai déjà l'expérience de mon petit frère. Je connais mes limites. J'ai déjà vu Dieu agir vraiment avec puissance. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais tout chrétien a déjà vu quand même la manifestation de Dieu là. Et j'y vais. J'ai dit, mais si au moins, Seigneur, fortifie ma foi, que je sois un encourageur. Que si ce n'est pas pour lui, peut-être qu'il va te rejoindre. Que, en plus, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont derrière lui. Il n'est pas croyant. Son épouse est d'arrière-plan musulmane et tout, un musulman. Et j'arrive dans un endroit complètement décontextualisé de Dieu, de Christ. J'entre dans ce service et c'est vraiment bien sécurisé et tout. Plein de machines et je vois le gars et puis t'as l'oncle qui me met un peu la pression, dit vas-y prie, le Seigneur va faire quelque chose. Quoi. Vous connaissez ces encourageurs chrétiens, je vous en parlais. Bah prie-toi alors. J'ai dit bon, on va le prier ensemble, oui je vais prier. Et j'ai demandé s'il y avait moyen de poser juste sa main parce que vous savez c'est très sécurisé à ce moment-là. Si je pouvais, à l'infirmière, s'il y avait moyen de poser ça, elle dit oui, vous pouvez poser sur le bras. J'ai prié et la même foi que j'avais pour prier pour mon frère, la même attente que Dieu est capable de faire quelque chose. Et je prie, je demande au Seigneur, s'il te plaît, si tu peux le relever, ce serait maintenant, ce serait génial. Mais si tu peux le relever, je sais pas, dans aujourd'hui ou quand tu le veux, mais qu'il puisse se relever, qu'il puisse retrouver sa femme, ses enfants, que tu puisses accomplir là un miracle, Seigneur. Je te fais confiance, je te prie. Et j'ai essayé de mettre toutes les formules que j'avais déjà entendues prier. Hein, vous savez comment on est. Hein, mais j'avais la foi. J'avais confiance que Dieu pouvait faire quelque chose. J'ai ouvert un peu les yeux pour voir s'il y avait un truc qui se passait. Et il était encore en coma. Puis je lui ai dit, tu sais, moi je veux croire qu'en chemin, il peut aussi se passer quelque chose. On le voit dans les évangiles, on essaye de se rassurer, mais j'y croyais vraiment ces textes-là. Vous voyez, je suis pas en train juste de réciter. C'est des choses viscérales, en moi je le crois. Je crois que Dieu est capable. Le lendemain ou le surlendemain, il m'appelle. Ce gars est sorti du coma. Et la grâce de Dieu, c'est qu'il a eu quelques soucis au niveau des orteils, mais tout le reste fonctionnait. Pour les médecins, vous savez que c'est souvent compliqué de sortir de là, des paralysies ou des choses. Aucune pareille, rien que problème. Donc si tu me vois en ligne, parce que j'ai dû partir à Auxerre et que tu regardes ce message, viens, on mange un petit carré poulet ensemble et on partage. Mais c'est à Dieu que revienne toute la gloire. Dieu est encore aujourd'hui le Dieu des miracles. Mais voilà, la maturité spirituelle m'apprend qu'à chaque jour qui passe, ma vie est une offrande sans condition à Dieu, que Dieu permette un miracle ou pas. Je vais pas arrêter de croire parce que Dieu n'a pas guéri mon frère. Je vais continuer de croire parce que Dieu est mon sauveur, il veut sauver encore aujourd'hui. Tout au long de ce récit de la résurrection, Jean place Jésus au centre de l'histoire. Ce n'est pas Marie qui est au centre, ce n'est pas Marthe qui est au centre, ce n'est pas le miracle qui est au centre, ce n'est pas le miraculé Lazare ressuscité des morts qui est au centre, c'est Jésus qui est au centre de l'histoire. C'est Jésus, comme le dit souvent Raymond Pierre, le héros de l'histoire, la personne principale de l'histoire. Le récit de la résurrection de Lazare est considéré comme le septième signe que Jean utilise dans son évangile pour qu'on pointe vers Jésus, le Messie. Jean met ainsi Jésus devant Marthe, Jésus devant Marie, Jésus devant Lazare, Jésus devant la mort, Jésus devant la maladie, Jésus devant la foule, Jésus devant toi et Jésus devant moi. Je vais inviter l'équipe. Nous allons vivre deux temps. Le premier temps, c'est que je voudrais inviter le conseil spirituel et toutes les personnes qui sont dans le service écoute et prière. À se tenir prêt, s'il vous plaît, pour prier pour des personnes qui demanderaient la prière pour une guérison, pour que Dieu puisse toucher d'une manière miraculeuse. On va imposer les mains aux malades et on va croire que Dieu, dans sa souveraineté, fera une œuvre, un signe pour que quelqu'un puisse donner toute sa vie à Jésus. Donc si l'équipe voulait déjà bien se mettre en place dans un instant, on va prier pour cela. Alors, peut-être que le miracle de Lazare te semble loin. Peut-être que je te parle de résurrection des morts et tu te dis, c'est dur à digérer en 2024. Les lumières sont passées par là, la raison est passée par là. On voit pas, on n'entend pas beaucoup de résurrection, etc. C'est dur pour moi. Sur la base du récit de Lazare, j'aimerais inviter l'Église ce matin à témoigner que Jésus est la résurrection. Que Jésus opère encore aujourd'hui des miracles dans notre société, dans notre génération, dans notre ville de Strasbourg, dans les nations que nous composons ici. J'aimerais inviter, sans aucune pression, mais vous sentez libre de témoigner à un ami, à quelqu'un ce matin. témoigner que vous avez expérimenté à un moment donné de votre vie une guérison miraculeuse, physique, spirituelle, psychique. J'aimerais vous inviter à témoigner de ce que le miracle de Dieu a été efficient dans votre vie, juste ce matin, en vous levant à votre place. Est-ce que quelqu'un a vécu un miracle qui puisse juste se lever pour témoigner de dire « Jésus a fait un miracle dans ma vie ». Je voudrais juste le dire, je voudrais juste le témoigner. Jésus m'a guéri, Jésus a libéré, Jésus a fait un miracle dans ma vie. Mon ami, si encore c'était juste Lazare, si encore c'était juste un prédicateur. Mais là, vous avez toutes ces personnes qui juste veulent vous dire de tout votre cœur, je me lève parce que je veux confesser qu'il y a eu un miracle. Le surnaturel s'est manifesté dans le naturel. Parce que Jésus est la résurrection. Alors j'aimerais inviter chacune et chacun d'entre nous à nous lever ce matin si c'est possible pour vous et on va prier. Et si tu as besoin qu'on prie pour toi, parce qu'il y a ton corps qui est malade, en souffrance, on veut prier avec toute une équipe ici. N'hésite pas, on sera juste sur le coin, comme ça tu ne seras pas dérangé, ce sera vraiment un lieu intimiste. Nous on va continuer en louange, on va prier, mais si tu, en ton âme, en ton esprit, tu dis oui, Jésus, tu es la résurrection, tu es le Dieu de miracles, je m'approche, je veux, opère selon ta volonté un miracle dans ma vie. Nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui.